Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons ce matin cette deuxième série concernant l'amour de Dieu. Et nous sommes, comme vous le savez, dans le livre très difficile à pouvoir expliquer, impossible sans l'aide de l'Esprit Saint. C'est le Cantique des Cantiques. Nous arrivons au chapitre 6 et nous aurons les versets 1 jusqu'au verset 12. Nous commençons par le verset 1. Il est dit, « Où est allé ton bien-aimé, ô toi, la plus belle des femmes ? De quel côté s'est-il tourné, ton bien-aimé ? Nous t'aiderons à le chercher. » Donc, dans le chapitre 5, au verset 9, les Juifs, c'est-à-dire les filles de Jérusalem, s'interrogeaient et commençaient à s'informer sur le bien-aimé de l'épouse. Ils lui avaient même demandé, « Qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre ?» Elle vient juste finir de leur expliquer et de leur témoigner la gloire de tout ce que représente Jésus, Yeshua pour elle. Elle leur a parlé de sa divinité, verset 11, son humanité, toujours verset 11, sa forte onction et sa puissance spirituelle, verset 12, son humilité, donc, et la soumission devant la souffrance, verset 13. Ses paroles de puissance, la parole de vie, verset 13. Le jugement qu'il porte dans ses mains, verset 14. La vie de résurrection qui habite son corps, verset 14. Le Christ éternel comme colonne de l'Église, son corps, verset 15. Le fondement de la divinité, encore verset 15. Son immuabilité, verset 15. La douceur de ses paroles, verset 16. L'ami qu'il est pour elle. Verset 16. En vérité, ce n'était rien d'autre qu'une révélation complète du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Maintenant, après qu'il ait été ainsi révélé aux Juifs, ces derniers, ensemble avec l'Église, entreprennent de le chercher. Comment pouvons-nous donc hâter le retour de notre Seigneur? Est-ce que c'est en préparant nos cœurs? Bien sûr, mais également en apportant un témoignage fidèle et véritable aux filles de Jérusalem. Lorsqu'il commence à se détourner de leur sujet du Seigneur Jésus comme leur Messie, et qu'ils se mettent à le chercher eux aussi, les choses se mettent ainsi en place pour le retour de l'époux. Il est dit au verset 2, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, il est descendu vers ses parterres d'aromates pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. » Tout d'abord, il est dit, mon bien-aimé est descendu dans son jardin. La communion de l'épouse et de son bien-aimé est restaurée. Elle sait où il se trouve. Qui le lui a dit? Comment le sait-elle? Rappelez-vous qu'elle est elle-même le jardin. Elle sait donc qui franchit ses portes. Elle sait qu'il a entendu le cri de son cœur et qu'il est revenu. À quel moment est-il entré? C'est quand elle témoignait aux filles de Jérusalem. La toute première fois qu'il l'avait quittée, elle l'avait fait revenir en se cramponnant à lui. Chapitre 3, verset 4. Maintenant, elle possède une nouvelle puissance en lui grâce à son témoignage fidèle auprès des filles de Jérusalem. Pendant qu'elle leur dit tout sur lui, il revint silencieusement dans son jardin. Ensuite, il est dit, versé par terre d'aromates pour faire paître son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Ils se rejoignent et leur relation de communion est restaurée. Il est venu pour cueillir ses lys. Mais que représentent les lys? Dans le chapitre 2, verset 2, nous avons vu que nous sommes ces lys. Comme la doctrine de l'enlèvement transparaît admirablement dans ce verset. Rassemblez les lys. Nous vivons effectivement une telle heure. Tandis que l'Église témoigne aux Juifs comme jamais auparavant et qu'un zèle nouveau pousse de nombreux cœurs à prier pour les filles de Jérusalem, le Seigneur se prépare à descendre dans son jardin et à y rassembler ses lys. Il va nous rassembler du milieu des ronces et des épines qui nous ont causé bien des misères et des souffrances. Nous allons être arrachés, extirpés par ses mains percées, puis nous allons être rassemblés dans ses bras d'amour pour être placés comme des témoignages dans ses demeures célestes pour toute l'éternité. Nous arrivons au verset 3. Là, il est dit, « Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys. » Ce verset est identique à chapitre 2, verset 16. « Elle lui appartient pleinement, et personne d'autre n'a aucun droit sur elle. » Le verset 4 dit « Que tu es belle, ô mon ami, comme Tirza. Tu es superbe tout comme Jérusalem et redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. » Tout d'abord, il est dit « Que tu es belle, ô mon ami, comme Tirza. » Eh bien, Tirza signifie délice, ce qui décrit sa beauté. Elle fut à un moment donné dans l'histoire une ville cananéenne conquise ensuite par les enfants d'Israël. Josué, chapitre 12, verset 24. Plus tard, Jéroboam, premier roi d'Israël, après la division du royaume, y vécut, faisant d'elle ainsi une ville royale. Tirza était située sur un lieu élevé, dans un cadre agréable, entouré d'olivères. plutôt d'oliveraies, donc des oliviers. Il semble étrange que Salomon mentionne cette fameuse ville, cette ville qui, après sa mort et sous le règne de son fils, est devenue la rivale de Jérusalem. Dans le cœur des Israélites, aucune ville ne surpassait Jérusalem. Pourtant, quand la nation se divisa, ils s'attachèrent néanmoins à Tirza. Salomon ignorait l'avenir. Il ne pouvait absolument pas imaginer que cette ville jouerait un tel rôle dans les années où son fils perdrait une aussi grande partie de son royaume. Cela nous montre à quel point ces paroles étaient inspirées, car le Seigneur, lui, il connaissait l'avenir. Il sait comment le cœur des hommes peut changer. Il savait déjà qu'elle deviendrait la cité royale de 10 tribus. Ensuite, il est dit, « Tu es superbe, tout comme Jérusalem. » Jérusalem, la ville de paix, la cité entourée de collines. Elle est également remarquablement haute, située aux abords de l'un des plus hauts plateaux du pays. Elle était d'une importance extrême pour les Israélites, non seulement parce qu'elle était la ville royale de leur roi avant la division du royaume, mais aussi parce qu'elle était la cité du grand roi, psaume chapitre 48, verset 2. En effet, les prophètes ont de tout temps prophétisé qu'un jour le Messie établirait son royaume dans cette ville. Dans Lamentations, au chapitre 2, verset 15, il est dit « Jérémie nous donne un aperçu de l'opinion mondiale à l'égard de cette cité. Et cela, cette ville, qu'on appelait jadis beauté parfaite, joie de toute la terre. » Ensuite, il est dit, « est redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. » Comment oublier ces soldats paradant dans nos villes, et cela au rythme de la musique militaire lors de la dernière guerre mondiale, comme nos cœurs épuisaient du courage en regardant ces visages qui allaient au-devant de combats si terribles et si ensanglantés avec tellement de courage. Quand l'épouse affectera-t-elle le cœur des païens et des indifférents, les saisissant d'une telle frayeur et les attirant vers la divinité, vers la gravité et la solennité qui convient? Assurément, nous devons quelque part manquer de puissance pour inspirer et toucher le cœur des hommes. Sinon, nous aurions déjà eu un plus grand impact sur le monde. Se pourrait-il que nos divisions récurrentes en soient peut-être la cause? Lorsque le monde qui se tient sur la touche observe et voit l'Église militante aller de l'avant pour faire la guerre avant la croix de Jésus à sa tête, c'est surtout avec cette croix. Alors, on peut se poser la question, voit-il une Église et une armée en guerre contre ses propres divisions, ou plutôt contre le diable? Je répète, parce que ça vaut la peine, lorsque le monde qui se tient sur la touche, lorsque ce monde observe et voit l'Église militante aller de l'avant pour faire la guerre avec la croix de Jésus à sa tête, est-ce que ce monde voit une Église et une armée en guerre contre ses propres divisions, ou plutôt contre le diable? Que Dieu nous aide à ne plus faire qu'un. Il faut que cette prière du Seigneur soit exaucée pour qu'il soit un comme nous le sommes. Saint Jean, chapitre 17, verset 11. Bien sûr, cela concerne uniquement ceux qui sont nés de nouveau et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce n'est qu'alors que l'épouse du Cantique des Cantiques sera redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière. Nous arrivons au verset 5. Il est dit au verset 5, « Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du Mont-Galade. » Dans le chapitre 4, verset 9, nous avions vu qu'avec un seul de ses yeux, l'épouse avait volé le cœur de l'époux bien-aimé. Désormais, alors qu'elle est en marche pour rentrer chez elle avec toute sa gloire, c'est comme si elle contemplait le Seigneur, son Sauveur, de ses deux yeux. Et cela d'un regard direct et éloquent. Alors qu'il observe et contemple son épouse, le Seigneur est tellement émerveillé du spectacle qu'il peut à peine le supporter. Quelle ne sera pas sa joie de nous rassembler pour nous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Jude, verset 24. Une version traduit « car il me trouble », cette version traduit cela par « car il me jette dans des transports ». C'est effectivement, avec passion et ravissement, rempli de fierté, que Jésus présentera l'épouse à l'armée des cieux, et cela dans la maison de son père. Il est dit, la chevelure ou ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du Mont-Galade. De nouveau, il évoque sa puissance et le secret de sa source, exactement comme dans le chapitre 4, verset 1. Il est dit, au verset 6 et 7, tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendrait du laboir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenade dessous ton voile. Eh bien, ce verset ou ces versets sont en quelque sorte une répétition de chapitre 4, verset 2 et chapitre 4, verset 3b. Il passe de nouveau en revue, premièrement, la joie de l'épouse qui reflète son joli sourire. Et deuxièmement, la pureté et la paix de l'esprit qui sont en elle. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. car il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Nous arrivons au verset 8. Au verset 8, il est dit, il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre. Vous vous souvenez certainement que dans le chapitre 3, verset 7, nous avons déjà mentionné les 60 reines du palais. Chacune d'elles avait une place d'autorité et chacune d'elles avait un ange gardien qui la protégeait. Il est de nouveau question ici de ces 60 reines. Il est cette fois-ci aussi question des 80 concubines épouses de second rang, puis d'un très grand nombre de vierges sélectionnées à travers le pays par les officiers du roi et ensuite introduites dans le harem pour y être préparées avant l'accord final du roi. Chacun d'entre elles, les vierges, les concubines, les reines et l'épouse de choix, faisait partie de la famille royale. Je ne vois pas comment les premières membres de la maisonnée royale pourraient éventuellement se rapporter aux inconvertis et non-chrétiens, comme certains commentateurs paraissent le penser. Tout au long de la Sainte Bible, nous avons la même image. Lors du ministère de Christ ici-bas, il y avait, premièrement, la multitude qui suivait. Deuxièmement, les 500 qui étaient fidèles lors de l'ascension. Troisièmement, les 120 qui persévéraient dans la chambre haute. Quatrièmement, les 12 qui furent nommément choisis comme disciples. Et cinquièmement, les 3 qui le connaissaient personnellement et qui allèrent avec lui, là où les autres n'étaient pas invités. Dans le livre dit Offenbarung, l'Apocalypse, cette merveilleuse vision que le Seigneur donna à Saint Jean sur l'île de Patmos, là nous voyons également la même chose. Dans l'Apocalypse, il est question de, premièrement, la grande multitude qu'un homme ne pouvait compter, chapitre 7, verset 9. Deuxièmement, les 144 000, chapitre 7, verset 4. Troisièmement, l'épouse de Christ, chapitre 19, verset 7. Quatrièmement, les 24 vieillards, chapitre 5, verset 8 et 14. Cinquièmement, 12 trônes avec des juges, Apocalypse chapitre 20, verset 4, et Matthäus chapitre 19, verset 28. Sixièmement, les 4 êtres vivants, chapitre 5, verset 8 et 14. Et septièmement, tout le monde, grand et petit, chapitre 19, verset 5. Qui sont donc les 24 anciens? La Bible ne nous le dit pas. Nous ne savons pas non plus qui sont les 4 êtres vivants qui occupent des positions d'honneur près du trône de Dieu. Cependant, Dieu sait qui ils sont. Il sait également à qui il donne ses places d'honneur. il sait encore qui fera partie de chacun des groupes que nous avons mentionnés. Et c'est toujours lui, Dieu, qui a dit, « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. » Oui, c'est ça. C'est merveilleux de savoir cela. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Toutefois, à la mère de Jacques et à Jean, Jésus ne pouvait pas promettre que ses filles occuperaient les sièges à sa droite et à sa gauche. Il expliqua « Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Saint Matthieu, chapitre 20, verset 23. Assurément, il y aura une distinction, car Daniel nous révèle les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, et ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Daniel, chapitre 12, verset 3. Donc, nous arrivons maintenant au verset 9. Au verset 9, il est dit, « Mais unique est ma colombe, mon ami accompli. Elle est unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qu'il a enfantée. Les jeunes filles, en la voyant, la proclament heureuse. Reine et concubine font son éloge, selon certaines versions. Donc il est dit, « Mais unique est ma colombe, mon ami accompli. » Pour ce verset, cette version est l'une des rares à rendre fidèlement le texte original. D'autres disent « Une seule est ma colombe », ce qui altère légèrement le sens. Ajouter cet adjectif laisse entendre que l'épouse est une seule personne, tandis que sans lui, nous avons plus la notion d'un groupe de personnes unies les uns aux autres, et cela dans le Seigneur. Ensuite, il est dit, elle est unique pour sa mère. Elle est la préférée de celle qui l'a enfantée. Nous savons d'après le chapitre 1, verset 6, qu'elle n'était pas enfant unique, ce qui indique plutôt qu'elle a été choisie parmi d'autres. Comme David, elle était ointe dès sa jeunesse et elle était mise à part pour une tâche particulière réservée pour elle dans le royaume de Dieu. Ensuite, les jeunes filles, en la voyant, la proclame heureuse, reine et concubine font son éloge. Elle fut donc non seulement, pour ainsi dire, marquée par son onction parmi les autres membres de la famille, mais après être entrée dans la famille royale, elle reste quand même appelée, distinguée entre tous. En quelque sorte, l'époux a jeté les yeux sur les gens de sa maison et sans la moindre difficulté sélectionné sélectionner, bien entendu, l'épouse. Et elle était déjà marquée, elle était déjà mise à part, et cela à cause de son amour tout particulier pour lui et par sa pureté. Dans l'Apocalypse, nous lisons qu'elle est irréprochable et sans tache devant le trône de Dieu. Sa pureté et son impeccabilité provoquent la louange de son entourage dans la maison du roi. Dans sa vision et révélation des cieux et des choses à venir, Saint Jean a vu non seulement l'épouse, mais il a vu également de nombreux autres groupes de gens grands et petits. Chapitre 19, verset 5. Nous arrivons au verset 10. Le verset 10 dit « Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore et qui est belle comme la lune, brillante comme un soleil, mais redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière ?» Qui donc est celle qui apparaît comme l'aurore? Eh bien, elle est comme l'aurore qui perce à l'horizon. Elle est belle et glorieuse, peignant le ciel de nuances roses, transformant l'obscurité de la nuit en espérance d'un jour nouveau. En vérité, l'enlèvement de l'épouse inaugurera pour elle un jour nouveau éternel, en effet un jour d'allégresse. Et qui est belle comme la lune? Comme la lune peut être belle par une nuit claire, elle brille alors comme une lampe en plein ciel sombre illuminant le monde. De même que la lune reflète la lumière du soleil, pareillement, l'épouse de Christ sur la terre reflète la lumière du Fils de Dieu, brillante comme un soleil. Progressivement, son éclat augmente jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin son Seigneur. Et quand ce moment arrivera, elle se métamorphosera et son éclat deviendra gloire et splendeur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Mais redoutables comme des soldats rangés sous leur bannière. L'épouse triomphante est semblable à une armée victorieuse. Comme la lune fait briller son éclat dans la nuit, l'épouse aussi manifestera son éclat dans un jour de ténèbres morne et lugubre, un jour de nuées épaisses, sinistres et menaçants. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. La prophétie de Joël, chapitre 2, sur le jour de l'Éternel est certes un jugement sur le monde. Mais avez-vous pensé que ce passage pouvait aussi s'appliquer d'une certaine manière à l'épouse du Seigneur qui, si elle est un corps d'adoration et d'adorateur, n'en est pas moins une armée prête à combattre et pour et avec l'époux. Lisez donc ce fameux passage avec des yeux différents. Ne peut-on pas le considérer comme une merveilleuse révélation reçue par Joël sur cette armée redoutable comme des soldats rangés sous leur bannière? Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Selon Joël, chapitre 2, verset 2 et le verset 3. Donc un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Eh bien, on dirait aller voir des chevaux qui s'élancent comme des chevaux d'attelage et ils courent. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui de chars cahotants au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore le chaume, et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse, tous les visages pâlissent de frayeur. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers, et comme des soldats, oui, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route, oui, sans se bousculer. Les uns les autres, ils vont chacun sur son chemin. Ils se ruent à travers les projectiles. Rien n'interrompt leur marche. Joël, chapitre 2, versets 4 à 8. L'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux et il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Joël chapitre 2 verset 11. Plusieurs caractéristiques de cette armée ressortent et sollicitent notre attention. Premièrement, le feu de Dieu se propage devant elle et derrière elle. Sans ce feu, cette armée serait vulnérable. Deuxièmement, l'unité et la coordination de ces soldats est si belle à voir. Chacun va son chemin, sans dévier de sa route, oui, sans se bousculer. Les uns les autres, ils vont chacun sur son chemin. Nous arrivons au verset 11. Au verset 11, il est dit: je venais de descendre au jardin des noyers pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne avait déjà fleuri et si les grenadiers étaient déjà en fleurs. L'épouse inspecte son jardin. Elle sait que le temps est court. Elle veut s'assurer que ses plantations sont fertiles, saines et florissantes. Pour ma part, je crois que le réveil des derniers jours sera un temps où nous sonderons nos cœurs comme jamais. Ce sera un temps de crible où nous nous jugerons nous-mêmes. Que Dieu nous aide à nous sonder nous-mêmes et à mettre de côté les péchés qui veulent nous empêcher de faire partie de cette armée victorieuse qui est l'épouse de Christ. Qu'en est-il de votre jardin? Où en est votre communion avec Jésus-Christ? Votre vigne est-elle féconde ou se dessèche-t-elle? Les grenadiers sont-ils en fleurs? La grenade est le fruit de la justice. Souvenez-vous que si nous sommes purifiés par le sang de Jésus, il n'en demeure pas moins que l'épouse de Christ s'est préparée elle-même par ses actes de justice. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Et nous terminons cette étude par le verset 12. Le verset 12 nous dit « Je ne sais pas comment je me suis retrouvé poussé par mon désir au beau milieu des chars des hommes de mon prince. » Eh bien oui, c'est l'épouse qui parle en substance. Elle dit ceci « Avant que mon âme en ait véritablement pris conscience, je me suis détourné au beau milieu des chars du peuple de mon prince et je me suis retrouvé là. Et nous, nous souvenons tous que lorsque Élie avait été enlevé au ciel, un char et des chevaux de feu sont apparus. Quand Élisée l'a vu, il s'est écrié « mon père, char d'Israël et sa cavalerie, Deux Rois, chapitre 2, verset 12. » Plus tard, quand Élisée fut malade et sur son lit de mort, Joas, le roi d'Israël, est venu pleurer à son chevet. Réalisant qu'Élisée allait bientôt quitter cette terre, le roi s'écria lui aussi, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie, Deux Rois, chapitre 13, verset 14. » Si Élie fut enlevé au ciel sans passer par la mort, et cela dans un char de feu, Élisée quitta lui cette terre, mais en passant par la mort. Ces deux saints et prophètes de l'Ancien Testament furent accueillis au ciel de la même manière. Les Israélites avaient leur propre ange gardien. Ainsi, dans Daniel, au chapitre 12, verset 1, nous lisons que l'archange Michel est le grand prince dont la tâche consiste à veiller sur Israël. Rien dans ce texte ne permet d'affirmer avec certitude que le prince en question soit Michel ou le Seigneur Jésus lui-même. Par contre, le char au beau milieu duquel se trouve l'épouse verset 12. Alors qu'elle est dans le jardin, cela nous fait penser au char de feu d'Élie. Nous pouvons être certains, chers amis, que l'épouse de Christ est constituée à la fois des saints déjà dans la gloire, comme de ceux qui seront enlevés lors de la venue du Seigneur. On peut considérer qu'Élie et Élisée en sont un exemple. Si Élisée est passé par la mort, n'a-t-il pas rejoint les cieux avec la même gloire qu'Élie, que Élie qui, lui, n'est pas passé par la mort? Ces deux hommes sont donc ensemble un type de l'épouse constituée à la fois des vivants et de ceux qui sont dans la tombe. Au verset 12, le char au milieu duquel se retrouve subitement l'épouse en un clin d'œil est le même que celui d'Élie. C'est le char qui appartient au peuple du prince. Bientôt, très bientôt, l'aube percera les ténèbres de ce monde et les ombres disparaîtront avec la venue de l'époux. Oui, chers amis, le Christ Jésus revient et nous l'attendons. Au milieu des ombres lugubres, soupirez jusqu'à ce que les ailes de la nuit replient leur plumage et guettent les portes de la tristesse en pensant au joyeux lendemain. Debout autour de la bannière de Jésus, veillez alors que le monde entier est assoupi. Le Christ revient. Viens, Jésus, viens. Le Christ revient. En un instant, ce cri retentira à la voix de l'archange céleste et au son de la trompette de Dieu. Alors les saints endormis se réveilleront, jaillissant de leur prison terrestre, se joignant aux vivants pour bondir dans les airs. De tous les yeux adorant leur Seigneur, ils seront enlevés. Oui, le Christ revient. Viens, Seigneur, viens. Chers amis, il serait bon de tout simplement méditer un petit moment et nous ferons une petite prière. Nous pouvons méditer un petit moment de tout ce que vous avez entendu et être silencieusement un moment avec notre Seigneur bien-aimé. Chers amis, prions. Nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes. Nous déposons devant toi notre inquiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, et cela afin que soit faite ta volonté et non pas la nôtre. Nos péchés, nous les déposons, afin que tu les pardonnes. Nous déposons nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies. Nous déposons toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Et chers amis, je vais vous mettre quelques chants du passé. Il y a environ une quarantaine d'années de cela, quand mon épouse et moi avions fondé une mission sur cassette, des cassettes que nous avons envoyées à des villages lointains dans les montagnes où il n'y a ni église, ni système religieux quelconque. Et donc, il y a bien des personnes qui ont ainsi pu recevoir la sainte parole du Seigneur et ainsi ils ont pu s'approcher de celui qui est devenu pour bien un certain nombre leur sauveur et Seigneur personnel. Eh bien, je vais essayer, pour autant que ça fonctionne, de vous mettre quelques chants de ce temps-là.